Au cours des deux derniers siècles, 20 avions, 50 bateaux et tous leurs passagers ont mystérieusement disparu dans un tout petit coin de l'Atlantique. Ce coin, c'est le Triangle des Bermudes. Pourquoi là ? Comment est-ce qu'on se retrouve avec une telle concentration de naufrages à cet endroit précis du globe ? Bonne question. La science, les invoqueurs d'esprit et les rumeurs de bar passent leur temps à élaborer des théories plus ou moins solides sur la cause de ces disparitions. On a aussi des livres, des documentaires, des films qui viennent alimenter le mystère et nourrir les discussions au sujet du Triangle des Bermudes. Bref, il se passe un truc d'anormal à cet endroit-là. Une force inconnue se cache en profondeur sous l'eau, tellement profond que la lumière n'y passe plus. Dans cet épisode, je vais vous faire découvrir tous les mystères du Triangle des Bermudes et séparer la légende de la réalité. En fait, ce sont que des mystères parce qu'on accepte de les croire. Premier mystère, le triangle. Comme par hasard, un triangle. La plupart des disparitions ont eu lieu dans une zone de l'Atlantique Nord qui tient dans un delta qui est délimité par Miami, Porto Rico et les Bermudes. La symbolique du triangle a toujours été très puissante. Des religions aux francs-maçons en passant par les pyramides d'Égypte, tout ce qui est ternaire cache un mystère. Du coup, ok, un triangle. Et comme par hasard, si un triangle pointe vers le bas, c'est le symbole de l'eau. Et comme par hasard, si on fait pointer le triangle vers le haut, c'est le symbole du feu. Le feu qui brûle tout, dis donc. On aurait pu l'appeler le triangle de Miami, mais c'est tout de suite moins stylé. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce triangle ? Deuxième mystère, les phénomènes paranormaux. En 1492, Christophe Colomb se rend vers l'Asie. Enfin, c'est ce qu'il pensait parce qu'en fait, il va tomber sur l'Amérique. Le 14 septembre, tiens comme par hasard, 1-14, 2x7. Non, je déconne là, arrêtez de chercher des coïncidences partout, on va pas s'en sortir. Bref, le 14, le soleil se couche sur la mer quand la boussole de Cri-Cri commence à s'affoler au moment où il rentre dans le triangle. En fait, on le sait parce que depuis le début du voyage, il écrit un journal de bord. Et figurez-vous qu'en plus de ce phénomène un peu chelou, il écrit avoir vu une lueur à l'horizon qui monte et qui descend. Alors, on le sait aujourd'hui, il s'en sort vivant, mais cette chance, elle sera pas donnée à tout le monde. En 1774, 300 ans plus tard donc, Thomas Lynch Jr. va signer la Déclaration d'indépendance des États-Unis à Philadelphie. Il devient du coup, ce jour-là, l'un des pères fondateurs des États-Unis, c'est plutôt stylé. 5 ans plus tard, il prend la mer avec sa femme et part au large. Ok, ça commence à sentir mauvais, vous voyez venir la douille. Effectivement, un voyage sans retour, leur destination c'était les Caraïbes, zone estimée de la disparition, le triangle des Bermudes. Bon, j'ai envie de dire, vu le sujet de la vidéo, il n'y a pas de surprise là-dessus. On va envoyer une équipe de sauvetage. Mais pour lui mettre un petit coup de challenge, bah, on est au 18e siècle, quoi. Pas évident de retrouver des mecs en mer avec les moyens de l'époque. Je vous rappelle qu'on est en 1770, on n'a pas de radio, on n'a pas d'hélico, et donc à part invoquer un ange gardien, je vois pas trop comment ils pouvaient faire. C'est un peu la galère, la zone fait 3 millions de kilomètres carrés, enfin, elle fait à peu près 3 millions de kilomètres carrés parce qu'elle a rien d'officiel, donc c'est pas super précis, mais 3 millions de kilomètres carrés, ça fait la surface de l'Inde. Donc pour retrouver un mec et sa femme avec une barque et une paire de rames, c'est un peu chaud. Saut dans le temps, 1918, autre époque, autre moyen. On est au début de l'aviation, mais ça n'a pas suffi à retrouver les 300 hommes et le bateau militaire sur lequel ils naviguaient. Un bateau pour 300 gars, c'est déjà du bon bateau. L'histoire, c'est qu'on a un navire ravitailleur de la marine US qui se balade dans le triangle et on perd le contact. Vous connaissez la suite, on n'a plus de traces du bateau, introuvable, comme une place de parking à Paris. Et les disparitions, ça se passe pas que dans l'eau, on en a aussi dans les airs. Par exemple, on a 5 chasseurs bombardiers qui vont être signalés disparus le 5 décembre 1945. Ils sont évaporés en plein hiver, ils effectuent un petit vol d'entraînement au large de la Floride, et on se retrouve avec 14 mecs volatilisés comme par magie. Sauf que, cette fois-ci, tout n'est pas perdu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des hydravions pour aller les chercher. Et vous savez ce qu'ils ont réussi à trouver pendant leur expédition ? Alors là, pour le coup, vous allez voir, c'est assez ouf. Non, en fait, ils ont rien trouvé, hein, parce que l'hydravion, lui aussi, il a disparu. Et ça, c'est relou. Ça fait quand même beaucoup de pas de chance. Là, à un moment donné, faut arrêter. C'est juste pas possible que ça s'accumule 2 fois de suite. Franchement, il y a des lundis matins, quand t'es pilote d'hydravion, t'aurais préféré rester au lit. Si vous regardez le film de Steven Spielberg qui s'appelle Rencontre du troisième type, il parle de cette histoire, mais il en parle avec des histoires d'extraterrestres, des trucs louches comme ça. Et franchement, je sais pas vous, mais moi je commence à y croire. Après tout, un extraterrestre, ça fait quoi ? Ça vient sur Terre avec sa grande soucoupe volante, Ça balance un laser au sol et ça aspire tout ce qui lui passe dessous. Franchement, ça colle. Et ça va recommencer en 2008. C'est pas loin 2008 en vrai. On est en 2022. S'il y a des gens qui nous regardent en 2028, bah bonjour à vous déjà, bienvenue sur la chaîne, abonnez-vous. Et en fait, ça fait 30 ans, c'est pas très loin. Bref, 2008, on a un petit avion qui décolle de Santiago pour aller à New York. Il y a 12 personnes à bord. Mesdames, messieurs, la météo est au beau fixe, attachez vos ceintures et profitez du paysage. Bon, vous l'attendez, après environ 35 minutes de vol, le radar de l'aéroport de départ voit que l'avion prend de l'altitude. Mais genre grave, il monte à une vitesse de ouf. Comme aspiré par une force, en hauteur, ça vous rappelle un truc. Et il va finir par sortir complètement des écrans radar, disparaître. Il donne plus aucun signe de vie. Dernière anecdote, et c'est pas la plus joyeuse, le witchcraft. Ouais, ça veut dire sorcellerie en anglais. On est d'accord, ça commence bien. Bref, ce bateau navigue tranquille près des côtes. Les passagers sont là pour passer un bon moment, ils admirent les lumières de Noël sur Miami, champagne dans une main, petit four dans l'autre. On est en 1967 et le bateau est percuté par un truc. Bon là, le capitaine qui a lu 2-3 bouquins sur la zone, il a direct la goutte de sueur et il se dit « Ouf, cette fois-ci, là ça pue, là, ça va être mon tour ». Et du coup, il anticipe, même si c'est pas très très grave comme incident, et il appelle direct un remorqueur pour se faire accompagner au port au cas où. Pour être certain d'être retrouvé, il va envoyer des fusées de détresse à intervalles réguliers, genre tous les quarts d'heure. Et 20 minutes plus tard, on a les gardes-côtes qui arrivent sur place pour trouver le bateau. Et vous le voyez venir, bah... vont rien trouver. Encore un bateau qui est perdu, on sait pas où. Franchement, c'est ouf. Ils vont rechercher pendant plusieurs jours et ils vont pas trouver un débris. Rien. Bon, et des histoires comme ça, mais j'en ai lu des tonnes. Mais vraiment des tonnes, on parle de bateaux qui naviguent dans la brume sans personne dedans. Franchement, la presse en déborde comme un évier qui est bouché. Du coup, on a un écrivain assez malin qui s'appelle Berlitz et qui se dit « Oh mais, il y a un paquet de blé à se faire avec cette histoire-là. » Il va sortir un bouquin et il y décrit ce qui se passe en invoquant des phénomènes paranormaux. Pour lui, c'est pas des tempêtes, c'est pas des vagues, parce que comment est-ce qu'il y aurait aussi eu des avions qui ont disparu ? Lui, il parie sur le fait qu'une civilisation ancienne se cache sous l'eau et elle libère des énergies destructrices. Ce bouquin, il a été publié à 14 millions d'exemplaires. Imagine qu'un mec dans un bar balance des rumeurs qu'il a lues, il en parle à 3 autres potes, ça fait 45 millions de personnes qui discutent du truc. Bon et au passage, Berlitz, il se fait quand même une masse de pognon. Admettons qu'il prenne 1$ par bouquin vendu, ça fait quand même 14 millions dans la pocket. On parle d'un montant où tu prends ta retraite. Bref, face au succès, le bouquin est traduit dans à peu près toutes les langues. Triangle des Bermudes par-ci, Triangle de las Bermudas par-là. On entend parler de monstres qui attrapent les avions au vol, des extraterrestres qui aspirent tout ce qu'ils peuvent. Franchement, on a l'impression que toutes les forces de l'univers se concentrent ici, déforment le temps, altèrent les propriétés magnétiques, déchaînent la mer. Le coin, niveau anormalité, c'est tellement haut que c'est en orbite autour du Soleil, et du coup c'est évident, c'est un phénomène surnaturel. Bon, un peu d'esprit critique là-dedans, là, sérieux. Les gars, on est en 2022, on a Elon Musk qui va nous emmener sur Mars la semaine prochaine, on mérite mieux que des histoires d'extraterrestres. Du coup, on va reprendre avec un peu de sérieux, moins de polémique, on va laisser entrer la science. Troisième mystère, sous le regard de la science. Bon déjà, pour la civilisation sous-marine de Berlitz, on oublie. Jacques Mayol, vous savez, c'est le gars du Grand Bleu qui a quitté sa meuf pour un dauphin. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, on en fera peut-être une autre là-dessus. Le gars, c'est un apnéiste, il va aller respirer un grand coup, descendre vérifier s'il n'y a pas des Mayas qui habitent en bas. Bon, je vous rassure tout de suite, il va rien trouver, à part un monticule qui ressemble vaguement à une pyramide. En tout cas, rien qui puisse avaler un bateau avec 300 mecs dedans. Et je sais pas vous, mais je suis pas plus étonné que ça. En revanche, les scientifiques vont montrer qu'en effet, on a des perturbations magnétiques pile à cet endroit, et qu'en effet aussi, elles ont un impact sur les outils de navigation, des avions comme des bateaux. Ensuite, on a nos copains géologues qui vont ajouter à ça de violentes remontées de méthane. Sous le triangle des Bermudes, on trouve de gigantesques poches de gaz. Et c'est très fréquent que ces poches cèdent sous la pression. Du coup, on a du gaz qui arrive du fond et qui vient perturber la surface en aspirant tout ce qui flotte. Et pour les avions, vous allez me dire, bah, on est dans les Caraïbes, et comme vous le savez peut-être, statistiquement, c'est une région du globe où on a le plus d'ouragans au monde. Et ces ouragans, ils n'ont pas qu'un impact dans l'air, ils ont aussi un impact sur la mer. La violence du vent crée ce qu'on appelle des vagues scélérates. Et ces vagues scélérates, c'est des vagues de 30 mètres qui sont capables de vous plier un pétrolier en deux aussi facilement que vous vous fermez un bouquin. Donc là, avouez que ça tient quand même plus la route. On a du méthane, des ouragans, un impact sur les vagues, de la science quoi. Pas des extraterrestres, pas d'énergie libérée par des Mayas qui habitent sous l'eau. Mais n'oubliez pas un truc, la question du début, c'est pas tant comment ces disparitions arrivent, mais pourquoi elles arrivent précisément ici. Et là, on va dézoomer un coup. Le monde est vaste, je veux dire, il y a un monde à l'extérieur du triangle des Bermudes. Et en fait, tellement vaste qu'on a aussi des naufrages qui arrivent à plein d'autres endroits du globe. Et vous savez ce qu'on fait en 2022? Bah, en 2022, on tient à jour des bases de données sur les accidents qui arrivent en mer. La statistique, quoi. Avec de la vraie donnée, fiable, comme un moteur de chalutier. Alors la donnée, c'est pas franchement sexy à regarder, mais ça a quand même le mérite d'être objectif. Et donc je vous disais, depuis des années, on a fait l'inventaire des accidents en mer un peu partout dans le monde, et ça permet de calculer le nombre d'accidents sur plusieurs zones du globe, et vous savez quoi? Eh ben, le triangle des Bermudes, il est pas dans le top 5 des endroits où il y a le plus de naufrages. Dans le monde, en 2021, 2% des bateaux ont rencontré un problème majeur ou ont coulé. 2%. Ces données, on les trouve où? On les trouve parce qu'elles sont remontées par les autorités nationales, les services de secours, ou les compagnies maritimes elles-mêmes. Et on a des instituts de sondage qui agrègent toutes ces données, font des stats sur les probabilités d'accidents à chaque endroit du globe. Alors dans le système, il y a quand même quelques biais, comme par exemple la précision de chaque pays à remonter la donnée, et le nombre d'années pendant lesquelles on a répertorié les accidents. Mais c'est toujours plus fiable qu'un bouquin qui parle de monstres géants qui chopent des avions au vol. Et donc la question suivante, c'est, vous savez combien on a eu d'accidents par bateau dans le triangle des Bermudes en 2021? 0,04%. 50 fois moins, 50, que la moyenne mondiale. Je répète, en 2021, il y a eu 50 fois moins d'accidents ou de naufrages dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs sur la planète. Et pour info, les chiffres sont pas calculés avec 2-3 bateaux qui sont passés par là, parce qu'aujourd'hui tout le monde flippe de traverser le triangle. En 2021, on a eu 8500 bateaux qui ont traversé et qui ont eu le courage de pas faire le tour. Et dans l'histoire, on a 3 bateaux qui sont endommagés, dont 2 qui se sont tapés dedans. Si on résume, 2 accidents, 0 naufrage. Alors voilà, pardon de vous avoir démystifié cet endroit. Si vous avez aimé cet épisode, vous allez adorer celui qui s'affiche à l'écran.